إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
Nous sommes arrivés au 23e chapitre du livre de l'unicité de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, 24e dans certaines éditions, qui est le chapitre de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est une catégorie du polythéisme, et non pas du moindre polythéisme, mais du polythéisme majeur, qui s'oppose au fondement du tawhid. L'essence de la sorcellerie consiste à utiliser les démons afin d'influer sur les personnes. Il est dès lors impossible aux sorciers de voir se réaliser sa sorcellerie si ce n'est en cherchant à se rapprocher des démons. S'ils se rapprochent d'eux, les djinns parmi eux le serviront alors en influant sur le corps de la personne ensorcelée. Un sorcier ne peut donc être un vrai sorcier si ce n'est en cherchant à se rapprocher des démons. C'est pourquoi nous affirmons que la sorcellerie est une forme de polythéisme. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « contre le mal de celles qui soufflent sur les nœuds », c'est-à-dire les sorcières qui soufflent sur les nœuds. « An-naffathat », les souffleuses, qui est le pluriel de « naffath », c'est une forme intensive du nom « nafth », qui est le soufflement. Et An-Naffatha désigne la sorcière que l'on nomme ainsi en raison de l'habitude qu'elle a de souffler sur les nœuds en s'aidant d'incantations, de maléfices et de sortilèges qui lui permettent de mettre à contribution les djinns. Tout ceci pour influer sur ce nœud dans lequel se trouve une partie du corps de la personne à ensorceler, c'est-à-dire des cheveux, ou bien des ongles, ou bien une chose appartenant à la personne ensorcelée, pour pouvoir agir sur elle. Donc ces sorciers et ces sorcières, qu'est-ce qu'ils font? Ils invoquent les démons en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils adorent Shaytan, ils l'invoquent en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala avec ces incantations qu'ils font. Et c'est comme cela qu'ils demandent l'aide aux shayatines en dehors d'Allah. Ils ont pris les démons en divinité en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils se mettent à leur service. Puis le Cheikh a cité la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala qui dit وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اِشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. C'est-à-dire que le sorcier a acquis la sorcellerie qu'il a échangée contre le tawhid. Il a échangé la sorcellerie contre la foi, contre l'unicité. Le prix à payer est donc le tawhid, et la sorcellerie en est la marchandise. Et il n'aura donc dans l'au-delà aucune part. C'est ainsi que le polythéiste n'a aucune part de récompense dans l'au-delà. Ce verset est donc une preuve claire que la sorcellerie est du polythéisme majeur. D'ailleurs, dans le même verset, Allah tabaraka wa ta'ala décrit clairement que ce sont les shayatines qui ont mécru car ils enseignaient aux gens la sorcellerie. Et aussi, il nous annonce que Harout et Marout mettaient les gens en garde de ne pas apprendre la sorcellerie. Et ils les mettaient en garde qu'ils étaient une tentation et une épreuve pour eux. Et ils les mettaient en garde de ne pas mécroire. C'est-à-dire qu'en apprenant la sorcellerie, ils acceptaient de devenir des mécréants. Donc, ce verset dans Sourate Al-Baqarah est une preuve irréfutable de la mécréance majeure du sorcier. le verset 102 de sourate Al-Baqarah.
Puis le Cheikh a cité la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, yu'minuna bil jibti wa at-tagut.
Nous avons déjà parlé de ce verset auparavant, qui dans le sens veut dire ajouter foi à la magie, jibt et au tagut.
Omar radiallahu anhu a dit, el jibt c'est la magie et le tagut c'est Satan.
Ce verset condamne les gens du livre qui ont cru à la sorcellerie, pratique répandue chez les juifs. Si Allah les a condamnés, maudits et s'est courroucé contre eux pour cette raison, ceci implique qu'il s'agit d'un interdit et d'un péché capital. Si en plus ce péché contient du polythéisme, il est évident qu'il s'agit alors d'un acte de polythéisme. Il en est ainsi pour toutes ces catégories.
Puis Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a expliqué ce verset en disant « Al-Jibt, c'est la sorcellerie ». En réalité, « Al-Jibt » dans la langue arabe veut dire « tout ce qui ne contient pas de bien ». Et effectivement, la sorcellerie ne contient pas de bien. Donc, c'est une connotation générale englobant beaucoup de choses,
comme nous l'avons déjà précisé dans le chapitre précédent.
Et dont la plus apparente et la plus manifeste est la sorcellerie que les juifs pratiquaient. Ils croient donc au jibt, c'est-à-dire à la sorcellerie. Et ils croient au tarout, c'est-à-dire shaitan, Satan, pour tous les actes éloignés de la vérité et de la droiture qui lui ont voué par obéissance. C'est-à-dire ils ont obéi au shaitan dans leur égarement, dans le fait qu'il les a appelés à son adoration et à l'adoration des divinités en dehors d'Allah. Nous avons parlé de ce sens dans le chapitre précédent.
Puis le Cheikh a cité la parole de Jabir ibn Abdillah qui a dit « Les Tawarit sont les devins chez qui Satan descendait. Dans chaque contrée s'en trouvait un. »
Tawarit, c'est le pluriel de Tarut.
Puis il a cité la parole de Abu Huraira radiallahu anhu qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Éloignez-vous des péchés pernicieux » ou capitaux. Les compagnons demandèrent au prophète d'Allah quels sont-ils. Il répondit, le polythéisme, la sorcellerie, tuer injustement une âme rendue sacrée par Allah, prendre le fruit de l'usure, spolier un orphelin de ses biens, fuir le jour de la bataille et accuser faussement les femmes chastes, innocentes et croyantes.
Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite les plus grands péchés capitaux, al-mubiqat. Ce sont ceux qui précipite les personnes s'en rendant coupables vers la perdition et la ruine dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ce sont les plus graves des grands péchés. La mention de la sorcellerie après que le polythéisme soit mentionné est une forme de précision après avoir mentionné le général. Car la sorcellerie en réalité n'est qu'une catégorie du polythéisme.
Puis le cheikh a cité, Jundub rapporte ses propos attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam.
La peine du sorcier consiste à le frapper d'un coup d'épée.
Rapporté par Tirmidhi qui fait ce commentaire.
L'avis le plus correct est que ce hadith est mawkouf.
C'est-à-dire que c'est une parole de Jundub et non pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Dans cette expression, aucune distinction n'a été faite ici entre les différents types de sorciers.
C'est-à-dire que sa sorcellerie soit une sorcellerie d'illusion, ou une sorcellerie qui tue, ou une sorcellerie qui divise, ou une sorcellerie qui rend malade. Peu importe le type de sorcellerie.
Cela implique donc que la peine légale de tout sorcier, quel qu'il soit, est la peine de mort.
L'avis le plus correct est que la peine ici est une peine à cause de son apostasie.
Car l'essence de la sorcellerie implique nécessairement la pratique d'un acte de polythéisme.
Or, si ce sorcier est un musulman à la base, en pratiquant la sorcellerie, il aura apostasié de l'islam.
Puis, le cheikh rapporte que le Bukhari rapporte dans son recueil de hadith authentique que Bajala ibn Abda a dit « Omar radiallahu anhu a donné l'ordre suivant « Tuez tout sorcier et sorcière, nous tuâmes alors trois sorcières ».
Ce hadith indique clairement que si les autorités compétentes l'ordonnent, la peine de mort est la sanction légale pour un sorcier ou une sorcière.
Puis, le cheikh
dit, on rapporte de manière authentique que Hafsa, radiallahu anha, a ordonné que l'on tue une de ses servantes qui lui avait jeté un sort. Elle fut donc exécutée. Le même récit authentique a été rapporté concernant Jundub. Ahmed a dit, ceci a été rapporté de façon authentique d'après trois compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, il s'agit de l'imam Ahmed ibn Hanbal. C'est donc une obligation pour les détenteurs du pouvoir d'attraper, d'interdire et de juger les sorciers et de leur faire la peine légale qui est, en islam, la peine de mort, à cause du mal qu'ils font. Car les sorciers divisent les gens, sont la cause de la maladie de personnes, sont la cause de ruiner leur vie, sont la cause même de la mort de beaucoup de personnes. Les compagnons, radiallahu anhum, ont décrété qu'il fallait le mettre à mort et ils ont ordonné de le faire sans aucune distinction. D'ailleurs, ceci a été rapporté, comme on l'a dit, de trois parmi les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qui sont ces trois? Omar ibn al-Khattab, qui a ordonné cela, et sa fille Hafsa, ainsi que Jundub ibn Abdillah. Et on ne connaît pas que des compagnons les ont contredits en cela. On ne connaît aucun avis parmi les compagnons qui les ait contredits en cela. Donc on dira que c'est une unanimité des compagnons que la peine de mort est la peine légale pour un sorcier. C'est pour ça qu'il est interdit de faire quelque distinction que ce soit entre les différents types de sorcellerie. De plus, il est obligatoire pour les musulmans d'être sur leur garde concernant la sorcellerie et ses catégories et de s'entraider pour informer les gens, pour dégager leur responsabilité devant Allah tabaraka wa ta'ala et pour condamner le blâmable. C'est pour cela qu'il faut informer les gens des agissements de toute personne qu'ils savent avoir des pratiques charlatanesques. En effet, les sorciers, comme l'ont dit les imams, ne se rendent dans une contrée que pour y semer corruption, injustice et violation et transgression des droits des gens. Puis nous allons lire les points à retenir que le cheikh a cités. Premièrement, l'explication du verset de la sourate Al-Baqarah. Deuxièmement, l'explication du verset de sourate Al-Nisa. Troisièmement, l'explication du sens du terme Jibt et Tarut et la différence entre les deux mots. Quatrièmement, Tarut peut être un djinn comme il peut être un humain. Cinquièmement, connaître les sept péchés pernicieux capitaux spécifiquement interdits. Sixièmement, le sorcier est un apostat. Septièmement, le sorcier est exécuté sans qu'on lui demande de se repentir. Qu'est-ce que cela veut dire ça? Cela veut dire que dans un état qui pratique les lois de l'islam, une fois que les preuves sont établies sur une personne que c'est un sorcier, alors son jugement est de lui donner la peine de mort. On ne lui dit pas si tu te repens, on te laisse. Non, s'il se repent, c'est entre lui et Allah. Mais la peine de mort lui sera appliquée en tout cas. Huitièmement, ceci existait du temps de Omar ibn al-Khattab. Que dire alors de notre époque? Effectivement, on voit que Omar, radiallahu anhu, a ordonné de tuer tout sorcier et toute sorcière. Et ils ont tué trois sorcières sous son ordre. Donc si à l'époque de Omar, radiallahu anhu, il y avait des sorciers, qu'allons-nous dire donc à notre époque où la connaissance du tawhid et l'attachement à la religion ont faibli considérablement chez les musulmans? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallillahu ala Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.